VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Le président gambien Adama Barrow est en visite officielle au Sénégal jusqu'à samedi. Son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction à Banjul. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Dakar par son homologue sénégalais Macky Sall, avec lequel il a eu des consultations par la suite. Le Sénégal a été le fer de lance des pressions diplomatiques et surtout militaires pour contraindre l'ex-président gambien Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant 22 ans, a quitté le pouvoir après la victoire d'Adama Barrow à la présidentielle du 1er décembre. Au Mali, des jeunes de Tombouctou sont mobilisés depuis mardi pour s'opposer à l'installation des autorités intérimaires dans la ville. Investiture prévue en principe demain vendredi. Très remontés de ne pas avoir été consultés par le gouvernement. Ces dizaines de jeunes armés occupent les locaux du conseil régional de Tombouctou. Au micro de Bagassi Koura, les explications de Yaya Tandina, un journaliste local.
Les hommes armés ont encerclé carrément le conseil régional de Tombouctou devant abriter la cérémonie pour l'installation du président des autorités intérimaires. Nous, on a saisi automatiquement la coordination régionale des mouvements alliés à la personne de Diko qui nous a confirmé qu'effectivement ce sont leurs éléments. Et alors qu'eux, ils sont alliés de la CIEMA. Aujourd'hui, d'autres hommes aussi sont venus se joindre à eux qui disent qu'eux, ils sont de la plateforme. La confusion chez les populations est telle que aujourd'hui, on ne sait pas si la branche politique qui commande ou c'est la branche militaire. Sinon, comment est-ce que nous savons qu'au cours de la réunion extraordinaire du CSA, les trois régions ont été réparties entre le gouvernement, la CIEMA et la plateforme. Et que la plateforme aujourd'hui soit contre ces autorités intérimaires, j'ai dit que c'est une lutte pour les intérêts personnels.
Qu'est-ce qu'ils revendiquent clairement? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Pour la plupart, ils disent qu'ils n'ont pas été associés, alors que nous savons qu'au début, on nous a dit que l'ensemble des signataires étaient autour de la table pour le choix des villes et ensuite dégager les dates pour les mises en place. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés sur le terrain que ces mouvements disent qu'ils n'ont jamais été associés pour quoi que ce soit.
Le journaliste Yaya Tandina à Tombouctou, au Mali. Crise dans le bassin du lac Tchad. Les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite ce jeudi au bord du lac Tchad pour attirer l'attention sur une des plus graves crises humanitaires de la planète qui combine famine, attaques djihadistes, changement climatique et mauvaise gouvernance. Cette crise touche quelque 21 millions de personnes et affecte 4 pays, Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger. Objectif de la visite de ces 15 membres du Conseil de sécurité dans la région, ouvrir la voie à une action plus forte de l'organe exécutif de l'ONU pour tenter de résoudre une crise largement ignorée par la diplomatie mondiale. Et toujours concernant cette crise humanitaire, au Nigeria, de nouveaux combats entre l'armée nigériane et le groupe djihadiste Boko Haram ont forcé 7000 personnes à fuir leur village et à venir se réfugier à Chibok. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Entre le 25 février et le 1er mars, soit en moins d'une semaine, ce sont près de 4500 personnes qui sont arrivées dans la ville de Chibok, selon un rapport de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Le 10 février dernier, c'est un groupe de 2000 personnes qui a fui le village de Kaya pour se réfugier dans la ville voisine de Damboa. Selon des représentants locaux de Chibok, les villageois ont commencé à fuir lorsque l'armée les a prévenus de l'imminence d'une nouvelle opération militaire d'envergure. Une situation très problématique car les villes sont déjà saturées par les nombreux déplacés qui ont fait les atrocités de Boko Haram. Plus de 2500 personnes étaient déjà réfugiées à Chibok et près de 55 000 à Damboa selon l'OCHA. La situation est presque similaire aux abords du lac Tchad où 8000 personnes ont afflué début février vers Monguno. Les humanitaires peinent à venir en aide au flot constant de déplacés à cause du conflit mais aussi par manque d'accessibilité à de nombreuses zones.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, un Français figure parmi des employés de la société minière canadienne Banro, enlevé mercredi dans l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué ce jeudi le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay dit s'activer en coopération avec les autorités congolaises pour faire toute la lumière sur cette affaire et parvenir à la libération du Français enlevé. Banro est une société canadienne qui mène des travaux d'exploration aurifère en RDC et qui exploite deux mines d'or à Twangiza et Namoya dans la province du Maniema. Notre correspondant dans la région, Ernest Mouero, donne plus de détails sur cette attaque qui a visé Namoya Mining, une filiale de la compagnie aurifière Banro, à Salamabila, située à 375 km au sud de la ville de Kindu, dans le territoire de Kabambare.
Des sources locales affirment que ces hommes armés non autrement identifiés ont investi vers 2h du matin le luxueux quartier résidentiel des agents de Namoya Mining, faisant au moins 5 otages en quittant le lieu. Ces assaillants auraient même tiré une balle sur un policier gradé, ajoutent les mêmes sources. La nouvelle dynamique de la société civile NDC condamne d'une part cette incursion et d'autre part estime que ces attaques armées répétitives contre des filiales de Banro Corporation traduisent un profond malaise au sein d'une partie de la population. D'autres sources pensent qu'il s'agit d'actes de sabotage aux ramifications non encore élucidées. Le président national de la NDC, Jean Chrysostome Kidjana, craint que ces attaques soient de nature à décourager les investisseurs potentiels en RDC. Cette incursion armée suscite des interrogations dans l'opinion, étant donné qu'elle intervient à moins d'un mois d'une autre attaque, cette fois à Twangiza Mining, une autre filiale de Banro, établie à Luwinja, au sud Kivu. Depuis l'implantation de Namoya Mining, une mine à ciel ouvert avec une usine de transformation de l'or, des mécontentements et manifestations ont pris corps au sein de certaines couches de la population locale, particulièrement les creuseurs artisanaux qui ont été déplacés de Namoya vers la localité de Matete. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Et toujours en RDC, les FARDC, l'armée nationale, disent avoir tué 20 rebelles du mouvement du 23 mars et perdu 2 soldats lors de combats depuis la fin janvier dans l'est du pays. Le point avec Anastasie Tudiech.
Pendant une conférence de presse hier à Goma, le général Léon Mouchalé, commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, a fait état de 20 morts chez les rebelles, 25 capturés et rendus, 2 soldats tués et 6 blessés dans les rangs de l'armée. Les affrontements ont eu lieu le 31 janvier, puis du 20 au 22 février sur 3 fronts, notamment à Matebe sur la colline de Songa et à Kitagoma à la frontière avec l'Ouganda. Kinshasa avait fait état, à la mi-janvier, de la présence d'anciens combattants du M23 vers Rutshuru, dans le nord-est du pays. Cette rébellion à dominante Tutsi a été battue en novembre 2013 par les FARDC, appuyée par les casques bleus, après 18 mois de guérilla. Plusieurs centaines de ces combattants avaient alors trouvé refuge en Ouganda et ont été cantonnés dans la base militaire de Bianga. Un accord signé avec le gouvernement à Nairobi prévoyait leur retour au pays, mais il n'a jamais été appliqué.
En RC, à la ville de Bria, au centre-est du pays, toujours en proie à l'insécurité, la présence des casques bleus de la MINUSCA, la mission onusienne sous place, ne rassure pas la population. En conséquence, les habitants prennent des mesures d'autodéfense. Écoutez le témoignage d'Arthur, un employé d'une ONG locale.
C'est un comportement très déplorable de la part de la jeunesse centrafricaine qui se promène avec des couteaux. On ne sait pas avec quoi est-ce qu'ils veulent faire avec ces couteaux-là. Et là, je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de responsabiliser les autorités, la gendarmerie et la police, de réprimer ces comportements-là. Parce que le fait pour une personne de se promener avec une arme blanche, un couteau, il peut commettre des crimes à tout moment. Et il est dangereux pour la population et la société.
On passe maintenant au Tchad. La communauté étudiantine et scolaire mobilisée pour exiger la libération de 69 étudiants de l'université de N'Djamena, condamnés à un mois d'emprisonnement ferme. Ils avaient été arrêtés le samedi dernier pour avoir endommagé la voiture du ministre en charge de l'enseignement supérieur pendant sa visite sur le campus universitaire. L'un des avocats des étudiants arrêtés, maître Alain Karoumbé, dénonce une condamnation contraire à la loi, dit-il. On l'écoute.
La condamnation des étudiants ne repose sur aucune base juridique. L'article 23 de notre code de procédure pénale est clair. On ne peut pas diviser la poursuite, mais dans le cas de l'espèce, c'est 3 magistrats qui ont jugé l'affaire différemment. C'est scandaleux. Il faut que la justice soit de plus en plus intègre. Ils ont été condamnés à un mois ferme. On ne sait pas c'est quelle loi même qui a été appliquée. Puisque quand on parle de concours d'infraction, là, l'infraction la plus élevée, c'est la destruction des biens. Le minimum des peines, c'est 6 mois à 5 ans. Mais les 1 mois, là, ils ont trouvé où ils ont appliqué quelle loi, on ne sait pas. personne ne peut dire qui a cassé le véhicule. Le droit pénal, il n'est pas comme ça. Ce qui vient de se passer, moi, je crois que c'est la plus grande injustice. Et en tant qu'avocat défenseur des droits de l'homme, je suis indigné.
Maître Alain Kagombe Njamina Ochad. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.